Chapitre 51. La première fois qu'elle était allée à la banque, de voir passer devant le garde armé, entrer au signal sonore dans le sas, attendre dans un espace hermétiquement clos et sans air, comme dans un cercueil vertical, jusqu'à ce que la lumière passe au vert, l'avait terrifiée. Les banques avaient-elles toujours possédé ce dispositif de sécurité ostentatoire? Avant de quitter l'Amérique, elle avait transféré un peu d'argent au Nigeria et la Bank of America lui avait fait rencontrer trois personnes différentes, chacune lui disant que le Nigeria était un pays à haut risque. Si quelque chose arrivait à son argent, il ne serait pas responsable. Comprenait-elle? La dernière employée à laquelle elle s'adressa lui demanda de répéter. « Madame, je suis désolée. Je ne vous ai pas entendue. J'ai besoin de savoir que vous avez compris que le Nigeria est un pays à haut risque. » « J'ai compris, » avait-elle dit. Ils lui lurent mise en garde après mise en garde, et elle commença à s'inquiéter pour son argent en train de fendre l'air jusqu'au Nigeria. Elle s'inquiéta encore davantage quand elle arriva à la banque et vit la débauche de cordons de sécurité à l'entrée. Mais l'argent l'attendait tranquillement sur son compte. C'est à ce moment-là, en entrant dans la banque, qu'elle aperçut Obinze dans le bureau d'accueil de la clientèle. Il lui tournait le dos, mais elle le reconnut à sa taille et à la forme de sa tête. Elle se figea sur place, malade d'appréhension, espérant qu'il ne se retournerait pas avant qu'elle n'ait recouvré son sang-froid. Mais il se retourna, et ce n'était pas Obinze. Sa gorge se serra. Elle avait la tête peuplée de fantômes. De retour dans sa voiture, elle mit l'air conditionné et décida de l'appeler pour se libérer. Le téléphone sonna longtemps. C'était quelqu'un d'important maintenant. Il ne répondrait certainement pas à un appel provenant d'un numéro inconnu. Elle envoya un texto. « Ciel, c'est moi. » Son téléphone sonna presque aussitôt. « Allô ? Ifem ?» Cette voix qu'elle n'avait pas entendue depuis si longtemps, qui semblait changée et inchangée. « Ciel, comment vas-tu ?
Tu es revenue ?
Oui ? » Ses mains tremblaient. Elle aurait dû commencer par envoyer un email. Elle aurait dû être enjouée, demander des nouvelles de sa femme et de son enfant, lui dire qu'elle était revenue depuis quelque temps.
« Alors ?» dit Obinze en traînant sur le mot. « Comment vas-tu ?
Où es-tu ? Quand puis-je te voir ? Pourquoi pas maintenant ?» L'audace dont elle faisait souvent preuve quand elle était nerveuse avait fait jaillir les mots. Cependant, peut-être valait-il mieux le voir tout de suite et en finir avec cette situation. Elle aurait préféré être un peu plus élégante, avoir mis sa robe portefeuille favorite qui l'amincissait. Mais sa jupe aux genoux n'était pas mal. Les hauts talons lui donnaient toujours confiance en elle. Et sa coiffure afro n'avait, Dieu merci, pas encore trop souffert de l'humidité. Il y eut un silence du côté d'Obinze. Une hésitation qui lui fit regretter son imprudence. « En fait, je suis un peu en retard pour une réunion, » ajouta-t-elle vivement. « Mais je voulais seulement te dire bonjour et nous pourrions nous rencontrer un de ces jours. »
« Ifem, où es-tu ? »
Elle lui dit qu'elle allait acheter un livre au Jazz Hall et qu'elle y serait dans quelques minutes. Une demi-heure après, elle attendait devant la librairie quand une Range Rover noire s'arrêta et Obinze descendit de l'arrière. Il y eut un moment où le ciel bleu chavira. Un moment de stupeur, pendant lequel aucun des deux ne sut que faire. Lui marchant vers elle, elle figée, plissant les yeux. Puis il fut près d'elle et ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Elle lui tapa dans le dos, une fois, deux fois, pour simuler une embrassade copain-copain, une étreinte platonique et sans risque. Mais il l'attira légèrement plus près de lui et l'y maintint un instant de trop, comme pour signifier qu'il n'avait pas l'intention d'être copain-copain.
« Obinze Madouessi, il y a si longtemps, tu n'as pas changé. »
Elle était troublée. Cette note stridente dans sa voix l'agaçait. Il la dévisageait franchement, nullement décontenancée, et elle ne put soutenir son regard. Ses doigts tremblaient malgré elle,
ce qui était déjà suffisamment pénible. Elle n'avait pas besoin en plus de le regarder dans les yeux, tandis qu'ils étaient tous les deux immobiles, sous le soleil brûlant, au milieu des fumées d'échappement des voitures dans Our Lower Road.
« C'est tellement bon de te revoir, Ifem, »
dit-il. Il était calme. Elle avait oublié que c'était quelqu'un de calme. Il y avait encore dans son attitude un reste de son passé d'adolescent, celui qui n'en faisait pas trop, celui que les filles recherchaient et que les garçons auraient voulu être.
« Tu es chauve ?»
dit-elle. Il rit et se touche à la tête.
« Oui, surtout par choix. »
Il avait forci. Le mince jeune homme du temps de l'université était devenu un homme plus enveloppé, plus musclé, qui paraissait moins élancé que dans son souvenir. Avec ses hauts talons, elle était plus grande que lui. Elle n'avait pas oublié, mais le souvenir ne lui revenait que maintenant, qu'il avait toujours eu ce comportement réservé, avec son jean de couleur sombre, ses mocassins de cuir, la façon dont il entrait dans la librairie sans arrogance.
Asseyons-nous.
Dit-il. La librairie était obscure et fraîche, l'atmosphère sérieuse et éclectique, des livres, des CD et des magazines disposés sur des rayonnages bas. Un homme à l'entrée leur fit un signe de bienvenue, tout en ajustant de gros écouteurs à ses oreilles. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, dans le minuscule café à l'arrière, et commandèrent un jus de fruits. Obinze posa ses deux téléphones sur la table. Il s'allumait souvent, vibrant en mode silencieux, et il leur jetait un coup d'œil puis détournait le regard. Il faisait de la musculation, comme en témoignait son torse puissant moulé dans une chemise ajustée.
« Tu es donc revenu depuis quelque temps ?»
dit-il. Il l'observait à nouveau, et elle se souvint qu'elle avait souvent eu l'impression qu'il lisait dans ses pensées, qu'il savait des choses la concernant dont elle n'était même pas consciente.
« Oui, » dit-elle.
Et qu'es-tu venu acheter ?
Pardon ?
Quel livre voulais-tu acheter ?
En réalité, je voulais seulement te revoir ici. J'ai pensé que si te retrouver était une chose dont je désirais garder le souvenir, je voudrais m'en souvenir au Jazz Hall.
Je voudrais m'en souvenir au Jazz Hall,
répéta-t-il en souriant, comme si elle seule pouvait inventer cette expression.
Tu es resté sincère, Ifem. Dieu merci.
Je pense déjà que je vais vouloir m'en souvenir. Sa nervosité se dissipait. Le premier moment d'embarras était vite passé.
Es-tu attendu quelque part ?
Demanda-t-il.
Peux-tu rester un peu ?
Oui. Il éteignit ses deux téléphones. Preuve rare dans une ville comme Lagos, de la part d'un homme tel que lui, qu'elle avait son entière attention.
Comment va Dike ? Et tante Uju ?
Ils vont bien. Dike est tout à fait remis à présent. Il est venu me voir. Il vient à peine de partir. La serveuse leur apportait deux grands verres de jus d'orange et de mangue.
Qu'est-ce qui t'a le plus surprise à ton retour ?
Tout, pour être franche. J'ai fini par me demander si c'était moi qui n'allais pas bien.
Oh, c'est normal,
dit-il. Et elle se souvint qu'il avait toujours voulu la rassurer, la réconforter.
Je suis partie beaucoup moins longtemps, mais j'ai été très surpris à mon retour. Je pensais que les choses auraient dû m'attendre, mais il n'en était rien.
J'avais oublié que la vie était aussi chère à Lagos. C'est incroyable ce que les riches Nigérians peuvent dépenser.
La plupart sont des voleurs ou des mendiants.
Elle rit. Des voleurs ou des mendiants ?
C'est la vérité. Et ils ne se bornent pas à dépenser beaucoup, ils s'attendent à dépenser beaucoup. J'ai rencontré un type l'autre jour qui me racontait comment il avait créé son affaire d'antenne parabolique il y a 20 ans. C'était l'époque où ces antennes étaient encore une nouveauté dans ce pays. Et il importait donc quelque chose que les gens ne connaissaient pas. Il a établi un business plan, fixé un prix correct qui lui laissait un bénéfice confortable. Un de ses amis, qui était déjà dans les affaires et voulait investir dans ce projet, a jeté un œil sur le prix et lui a recommandé de le doubler. Sinon, lui a-t-il dit, les riches Nigérians n'achèteront pas. Il l'a doublé, et ça a marché.
C'est dingue, dit-elle. Il en a peut-être toujours été ainsi et nous l'ignorions parce que nous ne pouvions pas le savoir. C'est comme si nous regardions un Nigeria adulte dont nous ne connaissions rien.
Oui.
Elle vit qu'il était heureux qu'elle ait dit « nous », et elle était heureuse que ce « nous » lui soit venu si spontanément.
C'est une ville de transactions, dit-elle. De transactions déprimantes. Même les rapports entre les gens sont des transactions.
Certains.
Oui, certains, reconnut-elle. Il se disait quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait encore exprimer ouvertement. Sentant ses doigts pris à nouveau d'un tremblement nerveux, elle se réfugia dans l'humour. Et il y a une certaine emphase dans la manière dont nous nous exprimons que j'avais aussi oubliée. Je ne me suis sentie véritablement chez moi que lorsque j'ai commencé à être grandiloquente.
Obinze rit. Elle aimait son rire tranquille.
À mon retour, j'ai été choquée de voir à quelle rapidité mes amis étaient tous devenus gros, avec des estomacs gonflés de bière. Je me suis demandé, mais qu'arrive-t-il ? Puis je me suis rendu compte qu'ils appartenaient à la nouvelle classe moyenne que notre démocratie a engendrée. Ils avaient du boulot et pouvaient se permettre de boire beaucoup plus de bière et d'aller au restaurant. Et tu sais que « restaurant » pour nous signifie « poulet frites ». Et par conséquent, ils ont grossi.
L'estomac d'Ifemelu se serra.
Bon, si tu regardes attentivement, tu remarqueras que cela ne concerne pas uniquement tes amis.
Oh non, Ifem, tu n'es pas grosse. Tu es typiquement américaine sur ce point. Ce qui est gros pour les Américains est simplement normal pour nous.
Tu devrais voir les types qui travaillent avec moi pour comprendre ce que je veux dire.
Tu te souviens d'Uche Okoye? Et même d'Okudiba? Ils n'arrivent même plus à boutonner leurs chemises à présent.
Obinze s'interrompit.
Tu as un peu grossi et cela te va très bien. Imaka.
Elle se sentit intimidée, agréablement intimidée, de l'entendre dire qu'elle était belle.
Tu me taquinais, tu disais que je n'avais pas de fesses.
Je retire ce que j'ai dit. À la porte, j'ai attendu exprès que tu passes devant.
Ils éclatèrent de rire, puis leur hilarité s'estompa, et ils restèrent silencieux, se souriant dans l'étrangeté de leur intimité. Elle se souvint de lui, quand elle se levait nue de son matelas posé sur le sol à Nsuka et qu'il la regardait en disant
« J'allais te dire de le remuer, mais il n'y a rien à remuer. »
Et elle lui avait flanqué en riant un coup de pied dans le tibia. La clarté de ce souvenir, la soudaine brûlure de désir qu'il provoqua, la laissèrent chancelante.
« Mais à propos de surprise, Ciel, dit-elle, regarde ce que tu es devenu. L'homme important à la Range Rover. Avoir de l'argent a dû changer les choses. »
Oui, sans doute.
Oh, allons, dit-elle. De quelle manière?
Les gens te traitent différemment. Je ne veux pas dire seulement les inconnus, les amis aussi. Même ma cousine Neoma. Tout d'un coup, il y a toutes ces marques de considération de la part des gens qui pensent que c'est ce que tu attends. Toute cette politesse exagérée, ces éloges exagérés. Et même ce respect exagéré qui ne t'est pas dû, tellement factice et outrancier. C'est comme un tableau aux couleurs criardes. Mais parfois, tu te mets à y croire un peu et tu te vois sous un jour différent. Une fois, je suis allée à un mariage dans mon village natal, et le maître de cérémonie m'a accueillie en chantant toutes sortes de louanges stupides. Et je me suis rendu compte que je marchais différemment. Je ne voulais pas marcher différemment, mais c'était ce que je faisais.
Quoi, comme si tu paradais ? Le taquina-t-elle.
« Montre-moi.
Tu dois d'abord chanter mes louanges. »
Il but lentement son verre.
« Les Nigérians peuvent être tellement obséquieux. Nous sommes un peuple qui a de l'assurance, mais vraiment trop obséquieux. Nous n'avons aucun mal à être hypocrites.
Nous avons de l'assurance, mais pas de dignité. »
« Oui. »
Il la regarda d'un œil approbateur.
« Et si on te couvre sans cesse de ces louanges excessives, tu deviens paranoïaque. » Tu ne sais plus distinguer ce qui est sincère de ce qui ne l'est pas. Ensuite, les gens deviennent paranoïaques pour toi, mais différemment. Ma famille passe son temps à me dire « Méfie-toi des endroits où tu vas manger. » Même ici, à Lagos, mes amis me disent de faire attention à ce que je mange. Ne mange pas chez une femme, elle va mettre quelque chose dans ta nourriture.
Et tu le fais ?
Je fais quoi ?
Attention à ce que tu manges.
Je ne le ferai pas chez toi.
Un silence. Il flirtait ouvertement et elle ne savait quoi dire.
Mais non, poursuivit-il. Je préfère croire que si j'accepte de manger chez quelqu'un, ce sera une personne qui ne mettra pas des trucs bizarres dans les plats.
C'est vraiment désespérant.
Une des choses que j'ai apprises est que tout le monde dans ce pays a l'obsession du manque. Nous imaginons que même les choses qui ne manquent pas manquent. Et cela crée un sentiment de frénésie générale, même chez les riches. Les riches comme toi, tu veux dire ?
Il resta silencieux. Il restait souvent silencieux avant de parler. Cela lui semblait particulièrement délicat, comme s'il portait une telle attention à son interlocuteur qu'il formait ses phrases de la meilleure manière possible.
J'espère ne pas éprouver cette frénésie. J'ai parfois l'impression que l'argent que je possède n'est pas vraiment à moi, comme si j'en avais la garde pour quelqu'un d'autre pendant un temps. Après avoir acheté ma maison à Dubaï, ma première propriété hors du Nigeria, je me suis sentie presque intimidée. Et quand je l'ai raconté à Okudiba, il m'a dit que j'étais fou et que je devais cesser de me comporter comme si l'existence ressemblait au roman que je lisais. Il était impressionné par ce que je possédais, alors que moi j'avais l'impression que ma vie n'était que faux semblant, si bien que je me suis mis à regretter le passé. Je pensais à l'époque où j'habitais avec Okudiba dans son premier petit appartement à Surulere, où nous faisions chauffer le fer à repasser sur le fourneau quand la NEPA coupait le courant, et que le voisin à l'étage en dessous criait « Que Dieu soit loué !» chaque fois que la lumière revenait et que, même pour moi, il y avait quelque chose de magique dans ce retour de la lumière, quand on était impuissant parce qu'on n'avait pas de générateur. Mais tout ça est d'un sentimentalisme un peu stupide, car je n'ai aucune envie de revenir à ce genre de vie. »
Elle détourna le regard, craignant que le flot d'émotions qu'elle avait ressenti pendant qu'il parlait n'apparaisse sur son visage. « Bien sûr que non. Tu aimes ta vie, » dit-elle.
« Je vis ma vie. »
« Ah, tu es bien mystérieux. Et toi, la fameuse blogueuse de la race, boursière de Princeton, jusqu'à quel point as-tu changé ? » demanda-t-il en souriant, se penchant vers elle, les coudes posés sur la table. Lorsque je faisais du babysitting à l'université, je me suis surprise un jour à dire à l'enfant que je gardais « Tu es un sacré cabot !» C'est un mot rigolo, non ?
Obinze rit. C'est alors que j'ai pensé « Oui, peut-être ai-je un peu changé, » dit-elle.
« Tu n'as pas l'accent américain. »
Je me suis efforcée de ne pas l'avoir.
J'ai été surpris quand j'ai lu les archives de ton blog. Cela ne te ressemblait pas ?
Je ne crois pourtant pas avoir tellement changé.
Oh si, tu as changé.
Il prononça ces mots avec une certitude qui lui déplut.
Comment ?
Je ne sais pas, tu es plus consciente de toi, peut-être davantage sur tes gardes.
On dirait un oncle déçu.
Non.
Encore un de ces silences, mais cette fois il semblait se retenir.
J'ai lu ton blog avec fierté. J'ai pensé, elle est partie, elle a appris et elle a gagné.
Une fois encore, elle se sentit intimidée. Gagner n'est pas mon affaire.
Ton esthétique aussi a changé.
Que veux-tu dire ?
Est-ce que tu fumais toi-même ta viande en Amérique ?
Quoi ?
J'ai lu un article sur ce nouveau mouvement parmi les Américains des classes privilégiées, sur les gens qui veulent boire du lait tiré directement de la vache, ce genre de choses. J'ai pensé que tu en étais peut-être une adepte, maintenant que tu mets une fleur dans tes cheveux.
Elle éclata de rire. Mais franchement, dis-moi en quoi tu as changé. Son ton était taquin, pourtant elle se crispa légèrement. La question lui paraissait trop intime, trop proche d'un point vulnérable. Elle dit d'une voix désinvolte, « Mon goût, sans doute. Je n'en reviens pas du nombre de choses que je trouve laides à présent. J'ai horreur de la plupart des maisons de cette ville. Je suis devenue une personne qui a appris à admirer les poutres apparentes. » Elle leva les yeux au ciel et il sourit de la voir se moquer ainsi d'elle-même. Un sourire auquel Ifemelu attacha un prix qu'elle aurait 100 fois voulu mériter.
« C'est une sorte de snobisme, » ajouta-t-elle.
« C'est du snobisme, pas une sorte, » dit-il. « J'étais comme ça quand il s'agissait de livres, avec le sentiment secret que ton goût est supérieur.
Le problème, c'est que je ne sais pas toujours tenir ma langue. » Il rit.
« Oh, tout le monde le sait. »
Tu dis que tu étais comme ça. Qu'est-il arrivé ?
Ce qui est arrivé, c'est que j'ai grandi.
Aïe ! Fit-elle.
Il ne dit rien. Son léger haussement de sourcils sardonique signifiait qu'elle aussi ferait bien de grandir.
Que lis-tu en ce moment ?
Demanda-t-elle.
Je suis sûre que tu as lu tous les romans américains qui ont été publiés.
Je m'intéresse davantage à la non-fiction, l'histoire et les biographies. Surtout, pas seulement sur l'Amérique.
Quoi, tu n'en es plus amoureux ?
J'ai compris que je pouvais acheter l'Amérique, et elle a perdu de son éclat. Quand tout ce qui comptait pour moi était ma passion pour l'Amérique, ils ne m'ont pas accordé de visa. Mais avec mon nouveau compte en banque, obtenir le visa est devenu très facile. J'y suis allée plusieurs fois. J'envisageais d'acheter une propriété à Miami.
Elle eut un pincement au cœur. Il était venu en Amérique et elle n'en avait rien su.
Alors, qu'as-tu fini par penser du pays de tes rêves?
Je me souviens de ta première réaction quand tu es arrivée à Manhattan. Tu as dit « C'est merveilleux, mais ce n'est pas le paradis ».
J'y ai pensé la première fois que j'ai pris le taxi à Manhattan.
Elle se souvint en effet de l'avoir écrit, peu avant de rompre tout contact avec lui, de le repousser derrière de multiples barrières.
Le plus agréable en Amérique, c'est la notion d'espace. C'est ce que j'aime le plus. Croire en un rêve, c'est un leurre. Mais tu y crois, et c'est tout ce qui compte.
Il contempla son verre, indifférent à sa philosophie. Et elle se demanda si ce qu'elle avait lu dans ses yeux était du ressentiment, si lui aussi se souvenait qu'elle l'avait totalement exclu. Quand il dit « Es-tu resté amie avec tes anciens copains ?», elle pensa qu'il cherchait à savoir qui elle avait laissé tomber en dehors de lui pendant toutes ces années. Devait-elle aborder d'elle-même cette question ou attendre qu'il l'interroge ? Elle devait l'aborder, elle le lui devait, mais une peur muette la saisit. La peur de briser quelque chose de fragile.
Je vois toujours Aninudo, oui, et Prié. Les autres sont à présent des gens qui étaient autrefois mes amis. Un peu comme toi avec Emenike. Tu sais, quand j'ai lu tes emails, je n'ai pas été surprise qu'Emenike ait tourné comme ça. Il a toujours eu un comportement bizarre.
Il secoua la tête et finit son jus. Il en avait ôté la paille et buvait à même le verre. Un jour où j'étais à Londres avec lui, il se moquait du garçon qui travaillait avec lui, un Nigérian, parce qu'il ne savait pas prononcer « Fanshawe ». Il articulait le mot phonétiquement comme l'avait fait ce garçon, ce qui n'était visiblement pas la bonne manière, mais lui non plus ne le disait pas correctement. Moi-même, je ne savais pas le prononcer, et il savait que je ne savais pas. On suivit ces horribles minutes où il a prétendu que nous nous moquions tous les deux de ce pauvre type. Alors qu'il n'en était rien, naturellement. Il se moquait aussi de moi. C'est à ce moment que j'ai compris qu'il n'avait jamais été mon ami.
« C'est un connard, » dit-elle.
« Connard, c'est très américain, ça.
Vraiment ?»
Il haussa légèrement les sourcils, comme s'il était inutile d'énoncer l'évidence.
Emenike ne m'a plus donné signe de vie après mon expulsion. Puis l'année dernière, sans doute après avoir appris que j'étais à nouveau « dans le coup », il s'est mis à m'appeler.
Obinze avait dit « dans le coup » d'une voix moqueuse.
Il n'arrêtait pas de demander s'il y avait des affaires que nous pourrions mener ensemble, ce genre de stupidité. Et un jour, je lui ai dit que je préférais vraiment sa condescendance. Et il ne m'a plus rappelé.
Et Kayode ?
Nous gardons le contact. Il a eu un enfant avec une Américaine.
Obinze consulta sa montre et ramassa ses téléphones.
Je suis désolée de devoir partir, mais il le faut.
Oui, moi aussi.
Elle aurait voulu prolonger ce moment. Retrouver Obinze au milieu de l'odeur des livres. Avant de regagner leurs voitures respectives, ils s'étreignirent en murmurant d'une même voix « C'était bon de te revoir ». Et elle se dit que son chauffeur et celui d'Obinze devaient les observer avec curiosité.
« Je t'appellerai demain », dit-il.
Mais elle s'était à peine assise dans sa voiture qu'un bip de son téléphone annonçait un nouveau texto. « Es-tu libre demain à déjeuner ?»
Elle était libre.
C'était un samedi et elle aurait dû demander pourquoi il n'était pas avec sa femme et son enfant. Elle aurait dû demander une discussion sur ce qu'ils étaient en train de faire exactement. Mais ils avaient un passé, des liens inextricables, ce qui ne signifiait pas qu'ils avaient un but quelconque ou qu'une explication était nécessaire. Aussi ouvrait-elle la porte quand il sonna et il entra, admira les fleurs de la véranda, les lys blancs qui se dressaient dans les bacs comme des cygnes.
« J'ai passé la matinée à lire « Les petites rédemptions de Lagos », dit-il. « Allez parcourir plutôt. »
Elle s'en réjouit.
« Qu'en as-tu pensé ?»«
J'ai aimé le poste sur le Nigerpolitan Club. Un peu trop moralisateur, peut-être. »«
Je ne sais pas comment je dois prendre ça. »«
Comme la vérité. »
dit-il,
avec ce léger haussement de sourcils qui semblait être une nouvelle bizarrerie chez lui. Elle ne se souvenait pas qu'il avait ce tic autrefois. Mais c'est un blog épatant, courageux et intelligent. J'aime bien la mise en page. Une fois encore, il cherchait à la rassurer. Elle désigna la propriété voisine. Tu la reconnais ? Ah oui. J'ai pensé qu'elle illustrerait parfaitement le blog. Une si belle maison, dans un état de magnifique décrépitude. Plus les pans sur le toit. Elle ressemble un peu à un palais de justice. Je suis toujours fascinée par ces vieilles maisons et par les histoires qui leur sont attachées. Il tira sur la mince rambarde en métal de la véranda d'Ifemelu, comme pour vérifier si elle était solide, si elle était sûre. Un geste qui l'émut. Quelqu'un va bientôt sauter sur l'occasion, démolir la maison et construire un immeuble resplendissant d'appartements de luxe hors de prix. Quelqu'un comme toi ? Quand j'ai débuté dans l'immobilier, je voulais réhabiliter de vieilles maisons au lieu de les démolir. Mais cela n'avait pas de sens. Les Nigérians n'achètent pas une maison parce qu'elle est vieille. Une grange rénovée de 200 ans, par exemple. Le genre de choses qui plaît aux Européens. Cela ne marche pas du tout ici. Mais il y a une raison. Nous appartenons au tiers-monde et sommes par conséquent tournés vers l'avenir. Nous aimons ce qui est nouveau, parce que le meilleur est encore devant nous. Tandis que pour les Occidentaux, le meilleur appartient au passé, et c'est pourquoi ils ont le culte du passé. Est-ce que je me trompe ou as-tu maintenant tendance à tenir des petits discours ? C'est reposant d'avoir quelqu'un d'intelligent à qui parler. Elle détourna les yeux, contrariée à la pensée qu'il faisait allusion à sa femme. Ton blog a déjà une telle audience ? Dit-il. J'ai de grands projets. J'aimerais parcourir le Nigeria et écrire des posts sur chaque état, avec des photos et des histoires personnelles. Mais je ne dois pas me précipiter. Il faut d'abord l'implanter solidement, gagner un peu d'argent avec la publicité. Tu as besoin d'investisseurs. Je ne veux pas de ton argent. Dit-elle un peu sèchement, gardant les yeux fixés sur le toit de la maison abandonnée. Sa remarque à propos d'une personne intelligente l'avait irritée, parce qu'elle visait, elle devait viser sa femme, et elle aurait voulu lui demander pourquoi il lui disait cela. Pourquoi avait-il épousé une femme qui n'était pas intelligente, pour lui dire maintenant que sa femme n'était pas intelligente ? Regarde le pan, Ifem. Dit-il doucement, comme s'il percevait son irritation. Ils regardèrent le pan sortir de l'ombre d'un arbre, puis prendre son envol mélancolique jusqu'au toit, son perchoir favori, où il se posa, surveillant le royaume délabré qui s'étendait en contrebas. « Combien y en a-t-il » demanda-t-il. « Un mâle et deux femelles. J'espérais apercevoir le mâle danser sa danse nuptiale, mais je ne l'ai jamais vu. Ils me réveillent le matin avec leurs cris. Tu les as déjà entendus ? On dirait presque un enfant qui refuse d'obéir. » Le cou gracieux du paon se mouvait de droite à gauche. Puis soudain, comme s'il l'avait entendu, il cria, le bec largement ouvert, ses cris jaillissant de sa gorge. « Tu avais raison à propos du cri, » dit-il en se rapprochant d'elle. « Il évoque celui d'un enfant. Cette maison me fait penser à une propriété que j'ai à Enugu, une vieille maison. Elle a été construite avant la guerre, je l'ai achetée pour la démolir. Mais finalement, j'ai décidé de la garder. Elle est très élégante et reposante, une grande véranda et des vieux frangipaniers à l'arrière. Je refais complètement l'intérieur qui sera très moderne, mais l'extérieur conserve son aspect ancien. » Ne ris pas. Mais quand je l'ai vue, elle m'a fait penser à de la poésie. Il y avait quelque chose de juvénile dans la manière dont il avait dit « ne ris pas », qui la fit lui sourire, se moquant à demi de lui, lui faisant comprendre qu'elle aimait l'idée d'une maison qui lui faisait penser à de la poésie. J'imagine qu'un jour, quand je m'évaderai de tout ça, j'irai vivre là-bas, dit-il. Les gens deviennent vraiment excentriques en devenant riches. Ou peut-être avons-nous tous une dose d'excentricité en nous, mais pas l'argent nécessaire pour le montrer. J'aimerais que tu vois cette maison. Elle murmura quelque chose, un vague acquiescement. Son téléphone sonnait depuis un certain temps, un bourdonnement assourdi au fond de sa poche. Il le sortit, jeta un coup d'œil et dit « Il faut que je prenne l'appel ». Elle hocha la tête et rentra dans l'appartement, se demandant si c'était sa femme. Depuis le salon, elle entendait des bribes de sa voix, qui montait et descendait, montait à nouveau, parlant Igbo.
Quand il rentra à l'intérieur, sa mâchoire était crispée. « Il y a un problème ?» demanda-t-elle. « C'est un gosse de mon village. Je paye ses frais de scolarité, mais maintenant il croit que tout lui est dû. Ce matin, il m'a envoyé un texto pour me dire qu'il lui fallait un téléphone portable et me demander de l'envoyer dès vendredi. Un garçon de 15 ans. Quel culot. Il m'a rappelé. Je viens de le remettre à sa place et de lui dire que sa bourse était terminée, juste pour lui faire peur et lui mettre un peu de plomb dans la cervelle. C'est un parent ?
Non.
Elle attendit qu'il en dise plus. Ifem, je fais ce que les riches sont censés faire. Je paye les frais scolaires d'une centaine d'étudiants de mon village et du village de ma mère. Il s'exprimait avec une indifférence embarrassée. Ce n'était pas un sujet dont il avait envie de parler. Il se tenait debout près de sa bibliothèque.
Quel superbe salon.
Merci.
Tu as fait expédier tous tes livres ?
La plupart.
Ah, Derek Walcott.
Je l'aime beaucoup. Je commence à comprendre un peu la poésie.
Je vois que tu as Graham Greene.
Je me suis mise à le lire à cause de ta mère. J'adore le fond du problème.
J'ai essayé de le lire lorsqu'elle est morte. Je voulais l'aimer. J'ai pensé que si j'arrivais à l'aimer...
Il effleura le livre. Sa voix s'estompa. Elle fut émue par sa nostalgie. « C'est de la vraie littérature, » dit-elle. « Une histoire pleine d'humanité qu'on lira encore dans 200 ans. »
« Tu parles exactement comme ma mère, »
dit-il. Il se sentait en terrain connu et inconnu à la fois. À travers la fente des rideaux, un croissant de lumière illuminait le salon. Il était debout près de la bibliothèque et elle lui racontait comment elle avait fini par ouvrir le fond du problème. Et il écoutait, avec cette intensité si particulière, avalant ses mots comme une boisson. Debout près de la bibliothèque, il riait en se rappelant que sa mère n'avait cessé de le harceler pour qu'il lise ce livre. Puis toujours debout devant la bibliothèque, ils s'embrassèrent. Un baiser délicat d'abord, lèvre contre lèvre, puis leurs langues se touchèrent et elle se sentit fléchir contre lui. Il s'écarta le premier. « Je n'ai pas de préservatif, » dit-elle, provocante, délibérément provocante.
« J'ignorais que nous avions besoin de préservatifs pour déjeuner. »
Elle lui donna une petite tape amicale. Tout son corps était envahi de millions d'incertitudes. Elle ne voulait pas le regarder. « J'ai une femme qui fait le ménage et la cuisine, alors j'ai plein de ragoûts dans le congélateur et du riz jollof dans le réfrigérateur. Nous pouvons déjeuner ici ? Veux-tu quelque chose à boire ?» Elle se dirigea vers la cuisine.
« Que s'est-il passé en Amérique ? » demanda-t-il. « Pourquoi as-tu coupé tout contact ?»
Ifemelu continua d'avancer en direction de la cuisine.
« Pourquoi as-tu coupé tout contact ? »
répéta-t-il doucement.
« S'il te plaît, dis-moi ce qui est arrivé. »
Avant de s'asseoir en face de lui à sa petite table de salle à manger et de lui raconter l'histoire de l'entraîneur de tennis d'Ardmore, au regard vicieux, elle remplit deux verres de jus de mangue. Elle lui décrivit en détail le bureau de cet homme dont elle avait gardé le souvenir, les piles de magazines sportifs, l'odeur de moisi. Mais en arrivant au moment où il l'avait emmené dans sa chambre, elle dit simplement « J'ai retiré mes vêtements et fait ce qu'il me demandait de faire. Je ne pouvais pas croire que je puisse jouir. Je le détestais. Je me détestais. Je me détestais vraiment. » J'avais l'impression, je ne sais pas, de m'être trahi moi-même. Elle s'interrompit. Et de t'avoir trahi. Il resta sans rien dire pendant plusieurs longues minutes, les yeux baissés, comme s'il absorbait ses paroles. Je n'y pense pas souvent, continua-t-elle. Je n'ai pas oublié, mais je ne m'appesantis pas. Je ne veux pas m'appesantir. C'est tellement étrange d'en parler à présent. C'était probablement une raison stupide. Pour gâcher tout ce que nous avions. Mais c'est l'explication et le temps passant, je ne savais plus comment faire pour réparer. Il continuait à garder le silence. Elle regardait fixement la caricature encadrée de Dicky, accrochée au mur, avec ses oreilles comiquement pointues, se demandant ce qu'Obinze ressentait. Finalement, il dit « Comme tu as dû être malheureuse et te sentir seule. Tu aurais dû m'en parler. Je regrette tellement que tu ne m'aies rien dit.
Elle entendit ces mots résonner à ses oreilles comme une mélodie et elle sentit sa respiration se précipiter, l'air lui manquer. Elle ne voulait pas pleurer, c'eût été ridicule de pleurer après si longtemps, mais ses yeux se remplissaient de larmes, un poids lui contractait la poitrine, sa gorge brûlait. Les larmes lui piquaient les yeux. Elle prit sa main, la garda serrée dans la sienne sur la table, et le silence s'alourdit entre eux. Un silence ancien qui leur était familier. Elle était à l'intérieur de ce silence, et elle y était en sûreté.